Donc, ce matin, avant d'entrer dans notre message, peut-être j'ajouterais une petite clarification à ce que Marc aussi a partagé en lien avec mon ministère au sein de l'Église. Donc, on ne parle pas juste, dans le fond, d'une diminution ou d'un changement au niveau du salaire, mais aussi au niveau des heures à consacrer à l'Église. Donc, ça fait en sorte que mon mandat va changer aussi un peu au sein de l'Église. Donc, pour l'instant, mes énergies vont plutôt se focusser sur le ministère auprès des jeunes adultes et avec le J2. Donc, un petit peu moins là avec les nouveaux arrivants. Oui, juste soyez au courant. Ça se peut que si vous étiez habitué de me voir un petit peu plus souvent pour des visites ou dans ce genre de secteur-là, ça se peut que je sois un petit peu moins présente là, dans les semaines et mois à moi à venir, pardon. Donc, parenthèse fermée, on est rendu à la parole de Dieu. Et donc, ce matin, on continue notre série sur laquelle Marc et moi, on travaille là, depuis plusieurs semaines. On est dans le livre de Marc. Et donc, le message de ce matin, je l'ai intitulé « La victoire est spirituelle ». Et donc, je pourrais vous parler peut-être et ouvrir ce matin avec l'histoire de Samuel, bien qu'on est dans le livre de Marc ce matin. Je fais un petit détour par l'histoire de Samuel. Au moment où il devait choisir ou discerner, aller oindre le prochain roi pour Israël. Vous souvenez-vous qu'est-ce que le Seigneur lui a dit à Samuel lorsqu'il regardait ces jeunes hommes-là dans la famille de cet homme-là qui avait plusieurs enfants. Est-ce que quelqu'un qui se souvient qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? L'Éternel, l'homme regarde à l'apparence et l'Éternel regarde au cœur. Alors, ce matin, on va voir une histoire dans le livre de Marc où on se retrouve dans une situation similaire. On a des gens qui regardent aux apparences et on a Dieu, Jésus, en fait, qui regarde au cœur. Et c'est pour cette raison que j'ai parlé d'une victoire spirituelle. Alors, qui défie un petit peu ce qu'on peut considérer d'un point de vue humain. Donc, aujourd'hui, c'est aussi un jour spécial. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le 8 mars? Ça vous dit-tu quelque chose? La journée de la femme, effectivement. Donc, c'est la journée internationale de la femme aujourd'hui. Une journée où on célèbre aussi la femme, hein, avec les dons, les capacités que Dieu lui a données. Et ça tombe bien, on va parler d'une femme aussi ce matin, parce que la Bible nous raconte pas seulement l'histoire d'homme, mais aussi l'histoire de femme. Et donc, dans les évangiles, Jésus enseigne avec les femmes, j'aimerais dire, et non sans elles, parce qu'il nous présente des histoires inspirantes, en fait. Les auteurs ont présenté des histoires inspirantes où Jésus nous montre qu'elles ont une foi qui est active et une foi qui est capable d'inspirer aussi les hommes. Donc, autant les hommes sont capables d'avoir une foi qui inspire les femmes, autant les femmes sont capables d'avoir une foi qui inspire les hommes. Et on fait vraiment un ensemble dans le royaume de Dieu. On n'est pas en compétition, mais vraiment, on a tous les deux de la valeur devant le Seigneur. Et c'est quelque chose qu'on voit dans les évangiles, hein, parce que Jésus n'a pas hésité à vraiment souligner la foi de femmes, comme il a souligné également la foi d'hommes. Et donc, il y a une femme. Et Jésus nous dit que on va se souvenir d'elle dans le monde entier. Et je ne sais pas si vous savez de qui il s'agit, cette femme-là dont on doit se souvenir. Je vous donne des indices. Premier indice, ce n'est pas la femme qui avait des pertes de sang. Deuxième indice, ce n'est pas la femme syrophénicienne. Troisième indice, ce n'est pas non plus la veuve dans le temple qui a donné une petite pièce de monnaie qui valait beaucoup. Quatrième indice, ce ne sont pas non plus les femmes qui assistaient à la crucifixion, qui se sont rendues au tombeau et que Jésus a mandaté pour annoncer la résurrection à ses disciples. Ce n'est aucune de ces femmes-là. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer de quelle femme il s'agit? « C'est exactement ça. C'est la femme qui a déversé le parfum sur Jésus. Et c'est d'elle dont on va parler ce matin dans le récit de Marc. Donc, sans plus tarder, entrons dans la parole de Dieu. Donc, la fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas d'agitation là parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. « À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? » Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous aurez toujours les pauvres avec vous et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers le chef des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Courbons nos têtes dans la prière. Seigneur, on est tellement reconnaissant de ta parole que tu nous as confiée, que tu nous as généreusement donnée pour notre édification, pour notre transformation, pour faire de nous des hommes et des femmes qui marchent en nouveauté de vie. Éternel, ce matin, que ta parole puisse vraiment entrer dans nos cœurs, que ta parole, Seigneur, puisse accomplir son œuvre en nous. Seigneur, aide-nous à demeurer focussés sur ta parole ce matin, à mettre de côté nos préoccupations, nos distractions. Aide-nous, Seigneur Dieu, à faire le choix de t'écouter et de t'obéir. Oui, Jésus, viens à notre secours, nous prions en ton nom. Amen. Alors, voici ce qui se passe dans les grandes lignes de notre histoire ce matin. Il y a comme 2 histoires imbriquées l'une dans l'autre. On voit au premier le début de l'histoire. Hein, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi réfléchissent à comment ils vont arriver à s'emparer de Jésus pour le faire mourir. Donc, on n'est pas loin du dernier repas de Jésus, mais pas tout à fait. On n'est pas tout à fait rendu là. Et là, tout d'un coup, il y a comme une pause. Et au sein de cette histoire-là, on voit l'histoire de la femme qui verse du parfum sur les pieds de Jésus. Et l'histoire se conclut finalement avec Judas, hein, on revient à notre première histoire, avec Judas qui offre un plan au chef des prêtres pour qu'il puisse s'emparer de Jésus. Donc, entre le moment où les gens conspirent pour mettre fin à la vie de Jésus et le moment où ils trouvent leur solution, la personne qui va les aider, il se passe quelque chose. Il se passe l'histoire de la femme qui va verser le parfum sur Jésus. Alors, qu'est-ce que ça a à nous apprendre? Continuons un peu en résumant l'histoire. On dirait qu'il se passe quelque chose ici d'un peu étrange. On dirait qu'il y a comme une réponse à une mauvaise prière. En effet, les chefs religieux cherchent à capturer Jésus pour le faire mourir. Et tout d'un coup, wow, la réponse à leurs besoins qui se manifestent. Judas les approche. Hey, c'est même pas eux qui vont vers Judas. C'est Judas qui vient vers eux pour leur livrer Jésus. Wow, ils doivent se dire, hey, je suis sur la bonne voie, hein? Dieu est vraiment de mon bord. Il m'envoie Judas. Et Judas aussi, en fait, ça semble bien marcher pour lui. Au début, il est fâché de ne pas pouvoir voler l'argent qu'on aurait obtenu en vendant le parfum. Et ça, c'est Jean qui nous l'apprend, pas dans l'évangile de Marc qu'on l'entend, mais dans l'évangile de Jean. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Les chefs religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui offrent 30 pièces d'argent! Hey, il doit se dire, j'ai fait un bon deal! J'ai même pas eu besoin de le voler. On me le donne. On sait pas trop comment qu'il volait dans la bourse, mais peut-être qu'il volait ça, 30 pièces d'argent, peut-être moins. Certainement, ça a dû lui apparaître comme « Hey, ça va bien? Toutes les choses sont de mon bord. » C'est intéressant quand même dans l'histoire, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des désirs tout croche dans votre cœur, hein? Et puis tout d'un coup, les circonstances semblent vous offrir, hein, sur un plateau d'argent ce dont vous aviez envie. Dieu répond à la prière, mais le diable est rusé aussi. Parfois, il nous offre, hein, la réponse à une prière, entre guillemets, pas nécessairement une prière qu'on offre à Dieu, mais la réponse à quelque chose qui va de travers dans notre cœur. Parfois, on en est conscient. J'imagine que Judas savait que voler, c'est pas bien, hein? Mais parfois, on n'est peut-être pas autant conscient. Peut-être les chefs religieux pensaient, hein, qu'ils faisaient la volonté de Dieu en se débarrassant d'une personne qui croyait être un blasphémateur, quelqu'un qui pensait qu'il marchait contre la volonté de Dieu. Il n'était pas capable de reconnaître l'œuvre de Dieu, hein, à travers le ministère de Jésus. Alors certainement, il pensait qu'il était sur la bonne traque. Et pourtant, il n'était pas sur le bon chemin. C'est une petite parenthèse, peut-être quelque chose pour nous à réfléchir à la maison. Mais continuons un peu en résumant cette histoire-là. On peut se demander, est-ce que Judas était gagnant et la femme perdante? S'il devait être dans un concours là, de la vie de tous les jours? Ben oui, Judas, il a gagné 30 pièces d'argent, il a tout pris. Mais la femme, elle, a perdu plus que 300 pièces d'argent et elle a tout donné. D'un point de vue humain, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il me semble que j'aimerais ça avoir une bourse plus lourde que plus légère, n'est-ce pas? Tout le monde aime ça en avoir un peu plus dans ses poches. Question de mathématiques ici, est-ce que j'ai des gens qui sont bons en mathématiques? Combien de fois Judas a-t-il gagné par rapport à la femme, financièrement parlant?
Genre un ratio?
Oui.
Ben, c'est un ratio d'apparence 10.
C'est une question piège, parce que lui, il a plus 30, puis elle a moins 300. Donc, c'est une petite parenthèse pour nous faire sourire ce matin. Parce que des fois, on calcule aussi, hein, quand on est sur le point de donner quelque chose au Seigneur, on calcule aussi parfois d'un point de vue humain. Qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais gagner si je décide de suivre le Seigneur, de faire sa volonté? Et parfois, on a l'impression qu'on va être perdant, n'est-ce pas? D'un point de vue humain, on a l'impression qu'on ne gagnera rien. Mais voici que ce texte nous apprend quelque chose de différent. Il nous apprend que la victoire, elle est spirituelle, que l'homme regarde à l'apparence, mais que Dieu voit au cœur. Et donc, notre victoire comme chrétien, elle n'est pas basée sur un point de vue matériel, elle n'est pas basée sur une perception de la vie, hein, qui est humaine, mais elle est basée sur la perception que Dieu a de notre cœur et de qu'est-ce qu'on fait. On a débuté avec l'histoire, hein, de Samuel et du prophète, du prophète Samuel et de David. Mais c'est souvent comme ça, et pas juste, hein, à l'extérieur de l'Église. Hein. Des fois, on peut dire, les gens qui ne vont pas à l'Église, hein, ils sont remplis de jugement, ils ne connaissent pas la patente, ils ne regardent pas les choses de manière spirituelle. Nous, on est chrétiens, on l'a l'affaire. Malheureusement, hein, la parole de Dieu nous rappelle que parfois, avoir un mauvais jugement, c'est propre à tous les êtres humains, incluant les gens dans l'Église. Et parfois, malheureusement, comme on le voit un peu dans cette histoire-là, hein, les disciples, ils étaient complètement à côté de la traque. Ils n'ont pas reconnu la valeur de ce que cette femme-là faisait. Et pourtant, c'est les gens qui auraient dû être les mieux équipés pour reconnaître quel était le cœur de cette femme-là. Ça aurait dû être les gens qui étaient le mieux équipés pour pas tomber dans le jugement. Et pourtant, ils sont tombés dans le jugement. Il y a là quelque chose pour nous à apprendre, n'est-ce pas? On est tous à l'école de Dieu. Un disciple, c'est quoi? C'est un élève, c'est un apprenant de Jésus. Alors, si on est des disciples de Jésus aujourd'hui, si on est des disciples, on est des apprenants. Ça veut dire qu'on n'arrête pas d'apprendre. Et on apprend à passer d'une vision du monde qui est focussée sur la logique humaine à mettre nos yeux sur la perspective divine. Et donc, c'est de cette femme-là que Jésus nous dit qu'il faut se souvenir. En effet, on l'a vu dans le texte, il dira, « Je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Mais est-ce que ça, c'est juste à propos de perdre de l'argent? Mon doux, si c'est juste à propos de perdre de l'argent, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent dire, « Moi aussi, j'en ai perdu de l'argent dans ma vie. » Il y a quelque chose d'un peu plus profond que de perdre de l'argent dans le texte. Il y a quelque chose d'un peu plus profond que d'avoir pris un parfum pour parfumer quelqu'un. Hein, parce que sinon, je me parfume tous les matins, moi, il n'y a pas de problème. On pourrait se souvenir de moi, parler de moi à travers le monde. Je ne suis pas sûre que ça vaut la peine. Il y avait quelque chose dans son geste. En fait, cette femme, elle a renoncé à la gloire de donner un grand montant aux pauvres et a accepté d'être incomprise et rejetée. Elle a eu en fait une attitude semblable à celle de Jésus dans son incarnation. Jésus aurait pu venir dans la gloire avec les anges et tout le monde aurait fait comme « Wow! J'ai une apparition de Dieu, c'est merveilleux, je suis prosternée à genoux et là j'ai plus aucun doute. » Mais il est venu dans l'humilité. Il a accepté dans son incarnation de donner la liberté aux gens dans la manière dont il est venu de le suivre ou non, de le reconnaître ou non. Et donc, il a pas privé les hommes et les femmes de leur liberté de le suivre. Il n'est pas venu de manière spectaculaire, de sorte à forcer tout le monde à le suivre. Et son ministère est marqué de beaucoup de moments où il est lui-même victime d'incompréhension, où il est lui-même rejeté. Et il a accepté ça. Et voici, on voit une femme qui modèle son action sur Jésus, en fait. Elle fait un peu, elle vit avec la même attitude que Jésus. Et elle pose un geste qu'on dira prophétique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, on a un monsieur qui fait le plein dans sa voiture. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec un geste prophétique? Eh bien, ce monsieur-là, il a confiance que s'il met du gaz dans sa voiture, elle va démarrer puis elle va avancer. Il y a plein de choses qu'on fait dans nos vies qu'on le fait avec la confiance. Un peu comme, je sais que ça, ça va me soutenir. Vous vous êtes tous assis sur des chaises ce matin. J'ai pas vu beaucoup de monde qui ont testé, est-ce que la chaise, elle va soutenir mon poids? Non, vous vous êtes assis avec confiance. Et la manière dont vous êtes assis déclarait que vous aviez la foi que cette chaise-là allait supporter votre poids. Avant même que vous vous assoyiez, n'est-ce pas? Déjà, juste le mouvement nous disait « Wow! Cette personne-là a la confiance que la chaise va supporter son poids. » Pourtant, il y a des chaises qui brisent un peu partout dans le monde et des gens qui se ramassent sur le dos un peu partout, n'est-ce pas? Et cette femme-là fait ça aussi. Elle pose un geste qui montre qu'elle a maintenant la foi dans une réalité qui ne s'est pas encore matérialisée, c'est-à-dire la mort de Jésus. C'est ce que Jésus nous dira. Elle a parfumé mes pieds en préparant mon corps pour l'ensevelissement, donc pour la mise en tombeau, pour le décès. Et elle fait quelque chose qui déclare qu'elle, elle a compris. Les disciples sont incapables de comprendre. Même avec tout ce que Jésus leur a dit, il faut que j'aille à Jérusalem pour mourir. Elle a compris et elle se prépare. Alors, les disciples de Jésus, non seulement ils ont été incapables de le faire, mais dans ce moment-là, ils ne comprennent pas, ils n'allument pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, on n'est pas à la même place, n'est-ce pas? Cette femme dont on doit se souvenir, elle honore aussi la valeur inestimable de Jésus. Et pourtant, Jésus dira, elle a fait ce qu'elle a pu. Moi, il me semble que je pense que les disciples ont dû se dire quelque chose comme, mais voyons donc, Seigneur, comment ça, elle a fait ce qu'elle a pu? Elle a déversé quelque chose qui valait plus que 300 pièces d'argent. C'est un peu plus que ce qu'elle pouvait, n'est-ce pas? Mais il me semble que c'est extravagant, non? Et pourtant, Jésus dira, elle a fait ce qu'elle a pu. En fait, ce qui se passe ici, c'est que contrairement à ses disciples, Jésus connaît la valeur inestimable de son sacrifice. Jésus sait qu'il est Dieu, il sait quelle est sa valeur, et donc déverser la valeur de 300 pièces d'argent sur Jésus, c'est pas grand-chose comparativement à ce que Jésus va faire pour le salut de l'humanité. Et donc, il semblerait que dans cette histoire-là, tout le monde ne comprend pas encore qu'est-ce qui se passe, mais Jésus a certainement compris, et il semblerait que la femme ait le compris aussi. Et ce matin, la foi de cette femme-là nous enseigne. Elle nous enseigne que le sacrifice de Jésus à la croix et notre amour pour Dieu sont plus importants que toutes nos bonnes œuvres. Vous aurez toujours les pauvres, dit Jésus, mais vous ne m'aurez pas toujours. Mettre votre foi aujourd'hui dans la mort, dans ma mort à la croix, que je vais mourir, que je vais être ressuscité, ça vaut beaucoup plus que tout l'argent que vous pourriez donner aux pauvres. Peut-être que d'un point de vue humain, c'est moins, ça flash moins. Ça nous amène un peu moins de gloire de dire, hey, moi j'ai de la foi. Ouais, mais là, tu veux pas plutôt faire des grandes œuvres pour que tout le monde te remarque, puis dise, hey, c'est une bonne personne? Ben non. Je mets d'abord ma foi en Jésus. Sa foi nous enseigne aussi que rien de ce qu'on va pouvoir faire ou dire va pouvoir repayer pour ce que Jésus a fait pour nous. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a donné ce qu'elle avait. Elle ne pourrait pas me repayer pour ce que j'ai fait pour elle. On ne peut pas repayer Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Et donc, le mouvement normal, c'est de donner ce qu'on peut, tout ce qu'on est, n'est-ce pas? Et donc ça nous apprend que, en fait, la foi en Jésus est la plus importante de toutes nos œuvres, entre guillemets. Il n'y a pas de plus beau jour pour Dieu que lorsqu'on choisit de mettre notre foi dans le sacrifice de Jésus à la croix, comme cette femme-là l'a fait. Vous me direz, es-tu sûre de ça? Pas mal, oui. Parce que Jésus a dit ceci, « Travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » L'œuvre de Dieu, là, c'est que vous croyez en Jésus. Que vous croyez que Dieu, le Père, a envoyé Dieu, le Fils, pour le salut de l'humanité. Vous cherchez toutes les œuvres là, qui vont faire que ça les plaire à Dieu. Et Dieu dit, mets d'abord ta confiance en moi. C'est ça qui va faire que tu vas accomplir l'œuvre la plus importante de ta vie. On apprend aussi que Jésus mérite tout ce qu'on peut. Certainement, ça inclut mais ça ne se limite pas à qu'est-ce qu'on a. Ça peut être mon énergie, mon temps, mes talents, mes prières, mon argent, mes biens, mon obéissance à ses commandements, mon engagement dans le service de l'Église. Et là, j'en passe bien d'autres, n'est-ce pas? Dieu mérite amplement tout ce qu'on peut faire pour l'honorer, pour participer à son œuvre ici-bas. Dieu le mérite. Mais ça, pour arriver à savoir qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu, ça demande une réflexion constante de notre part. Parce que nos ressources changent, n'est-ce pas? On n'a pas les mêmes ressources peut-être à 20 ans qu'on en a à 80. Mais on a toujours de quoi donner au Seigneur pour lui exprimer notre reconnaissance. Mais ça implique aussi une croissance de notre part. Donc, une croissance qu'on choisit, parce que plus que je choisis de donner à Dieu, plus que je grandis dans ma foi, plus que j'ai besoin de donner à Dieu pour soutenir cette croissance-là spirituelle. C'est un petit peu comme quand on mange. Hein? Des fois, on mange pour avoir de l'énergie, n'est-ce pas? Mais plus qu'on a de l'énergie puis qu'on s'entraîne, hein? Plus qu'on a besoin de manger parce qu'on s'entraîne. Et c'est un peu comme ça la vie spirituelle et la marche avec Jésus. Donc, je vous donne un exemple concret dans ma vie. Il y a eu un moment où, durant la pandémie, je suis retournée dans le système de santé. Et j'ai travaillé dans le système de santé. Et souvent, sur l'heure du midi, j'avais mon temps avec le Seigneur, toute seule dans mon bureau. Et je me souviens d'un de ces moments-là où j'étais assise dans mon bureau et je me suis rendu compte que j'étais vraiment confortable, en fait. J'avais un travail qui me demandait un certain nombre d'heures par semaine, 8 à 4. Donc, tu sais, on a un beau rythme de vie, un salaire confortable. Mais je me suis rendu compte qu'aussi, spirituellement, j'étais rendue peut-être un peu trop confortable. Et tout d'un coup, il y a une peur qui a un peu envahi mon cœur. Et je me suis dit, si je ne continue pas à mettre ma foi au défi, hein, en faisant plus confiance à Dieu, en étant plus impliquée dans son œuvre, bien, je vais devenir tellement confortable que je risque de m'endormir, que je risque d'être inutile pour l'œuvre de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que si je voulais grandir, il fallait que je choisisse de me mettre dans des postures où ma foi allait être mise au défi. Et donc, on donne à Dieu et on apprend aussi hein, à s'ajuster pour pouvoir continuer à grandir comme chrétien. Est-ce que c'est raisonnable? L'apôtre Paul nous dira, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte exagéré? » Raisonnable, effectivement. Un culte raisonnable. Wow! Si je donne tout mon corps à Dieu, c'est comme une belle image de donner tout ce que je suis, n'est-ce pas? Reste pas grand-chose d'autre. Mon esprit est définitivement là. Mon portefeuille, tout ce que je suis est là, donné à Dieu. Et nous apprenons aussi que Jésus est honoré effectivement par la foi qui est exprimée par nos œuvres. Et là, je parle de ce côté-là, des décisions qu'on prend. Comme cette femme-là, hein, elle n'a pas non seulement mis sa foi en Jésus, mais elle a versé le parfum hein, sur lui. Donc, il y avait une œuvre concrète. Et donc, comme enfant de Dieu, la décision qu'on prend hein, de faire des bonnes œuvres, entre guillemets, doit toujours avoir un caractère que j'appellerais prophétique. Pourquoi? Parce que nos actions vont déclarer au monde qui est aveuglé par le péché et aux chrétiens qui sont endormis, que la valeur inestimable de l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, si moi, je décide de partager ma foi avec des collègues au travail et que je partage ça dans mon petit groupe, ça a un caractère prophétique, hein, parce que ça va venir encourager et déclarer peut-être aux gens dans le groupe qui ont peur de faire ça, hein, que Jésus vaut la peine d'être partagé, que le message de l'Évangile vaut la peine d'être partagé. Si je choisis d'être généreux ou généreuse en donnant peut-être à un organisme communautaire ou à des gens qui sont dans le besoin, hein, je déclare que j'ai la foi que Dieu veut continuer à pourvoir à mes besoins et je déclare aussi que Dieu aime les gens qui sont dans le besoin, que Dieu veut prendre soin d'eux. Et ça aussi, c'est un témoignage. Nos actions ont une portée, non seulement éternelle, mais elles ont également une portée temporelle, alors qu'elles servent de témoignage pour les chrétiens, mais aussi pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je vais vous donner un petit indice, hein, si vous vous dites, ben peut-être, je ne sais pas si j'y arrive, si mes actions hein, portent du fruit. Eh bien, j'aimerais vous dire que parfois, si nos sacrifices qu'on fait pour servir Dieu ne sont jamais critiqués, peut-être qu'on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait pour Dieu. Il se passe quelque chose ici. Vous allez me dire, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire, mais écoutez, les disciples de Jésus sont là, autour de la table. Ils ont entendu le message de Jésus. Ils ne comprennent pas et leur réaction, c'est de critiquer, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas la dévotion profonde de cette femme pour Jésus. Et leur réponse, c'est la critique. Parfois, nous aussi, comme enfants de Dieu, lorsqu'on choisit d'aller un petit peu plus loin dans notre marche avec Jésus, hein? Comment ça tu fais une veillée de prière? Mais il semble que tu pourrais te contenter de 15 minutes, n'est-ce pas? Comment ça que tu donnes à la mission? Il me semble que tu donnes déjà ta dîme, ça devrait être assez. Eh bien, plein d'autres choses aussi. Je peux vous donner peut-être des exemples de ma vie. Depuis que j'ai choisi, par exemple, de servir à l'Oasis, j'ai entendu des gens me dire des commentaires. Et là, je me disais, oh, OK, peut-être que qu'est-ce que je fais travaille un petit peu les cœurs. Et ces commentaires-là ne venaient pas de personnes qui ne vont pas à l'église. Au contraire, ça venait de gens qui sont engagés dans l'église. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, « Ah, tu as choisi d'être pasteur, tu aimes ça être pauvre. » Et j'ai une autre personne qui m'a dit, « Bien, peut-être tu devrais trouver un vrai travail. » Et là, je me suis dit, « Oh, OK. » Parfois, quand on prend un pas de foi, ça rend les gens inconfortables, ça travaille. Et des fois, ces critiques-là qu'on reçoit sont un peu un signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Que le pas de foi qu'on a fait, et évidemment, Dieu ne demande pas à tout le monde d'être pasteur, mais il nous demande tous d'aller un peu plus loin dans notre marche avec lui, de faire des pas de foi. Et parfois, quand ça dérange, c'est un signe que Dieu est en train de travailler dans le cœur de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est un signe qu'on est sur la bonne voie. Jacques nous dira ceci, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai que j'ai la foi. » La vraie foi en Jésus, hein, l'œuvre la plus importante que vous pouvez accomplir dans votre vie, de mettre votre foi en Jésus, elle se transpose toujours par des gestes pratiques alors qu'on mature dans la foi. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas comme, hey, « Eh oui, je crois en Dieu, OK, qu'est-ce que ça change dans ta vie? » Ben pas grand-chose. Non. Ça change tout d'avoir la foi en Dieu. Ça réoriente nos priorités. Hein? Ça réoriente notre compas moral, notre boussole intérieure. Hein? Elle devient réorientée vers les priorités de Dieu. Et ça amène toujours des conséquences pratiques dans notre vie. Des pas de foi qui seront, comme cette femme-là, pas toujours compris, mais qui vont toujours plaire au cœur de Dieu. Et donc, ce matin, je vous laisse avec une question. As-tu pris ta victoire spirituelle? On est tous à des endroits différents. Pour la première question, c'est celle-ci. Crois-tu que Jésus a porté tous tes péchés à la croix? La première œuvre que Dieu nous demande de faire, mettre notre foi en lui, l'œuvre la plus importante, la chose la plus importante. Si tu as fait ça, peut-être je peux te demander, as-tu répondu avec gratitude, en donnant et en faisant tout ce que tu peux pour le servir? Et si, quand on dit faire tout ce qu'on peut, hein, on ne parle pas d'aller nécessairement au-delà de ses capacités financière, émotionnelle, relationnelle, tout le temps. On ne prêche pas sur le burn-out ce matin, là. C'est pas ça l'idée ici. Mais à l'intérieur de vos capacités, avec ce que vous sentez que Dieu vous appelle à faire, et parfois c'est vrai, Dieu nous demande d'aller un petit peu au-delà de nos capacités pour un certain temps, est-ce que vous avez tout fait, tout donné pour lui? Tout pour Jésus? Et la profondeur de votre amour pour Jésus, est-ce qu'elle a un effet prophétique sur les autres? Est-ce que votre amour pour Jésus, hein? Est-ce que ça dérange un peu? pour les gens là, qui ne connaissent pas le Seigneur autour de vous, est-ce que ça les rend inconfortables un peu? Ça devrait. Ça devrait à la fois les inspirer et peut-être un petit peu les déranger ou les amener à se questionner. Ce n'est pas seulement nos paroles qui sont un témoignage, c'est nos actions aussi. Est-ce que votre vie prêche l'Évangile? Est-ce que votre vie prêche que Jésus vaut tellement la peine que je suis prête à mettre ces priorités-là de côté? Est-ce que votre vie dit « oui, tout pour Jésus » ? Je vous invite à prendre quelques minutes avec moi. On va juste se recueillir et demander au Saint-Esprit de parler à nos cœurs par rapport à ça, de nous montrer si peut-être on a hésité à aller plus loin avec Jésus. Jésus, tu connais le cœur de chaque homme, de chaque femme en ce lieu. Tu connais nos défis de foi. Ces espaces-là dans nos vies où tu nous demandes d'aller un peu plus loin, de tout te donner. Seigneur, tu aspires à ce que nos vies soient un témoignage mémorable, comme le témoignage de vie de cette femme-là que tu nous as appelé dont tu nous as appelé à nous souvenir. Seigneur, c'est difficile de tout te donner. Et parfois, j'aimerais mieux ne pas déranger. Mener une vie tranquille qui n'amène pas la controverse, qui ne bouscule pas. Mais Seigneur, je reconnais que toi-même, tu as été rejeté, toi-même parfois, tu as dérangé. Non pas parce que tu voulais être faisant mal et déranger les gens, mais parce que ta vie était vraiment à l'image de Dieu le Père, parce que tu étais pleinement dans ta vie mission. Seigneur, ce matin, viens frapper à la porte de nos cœurs. Viens nous montrer, Seigneur, que tu as aussi une mission pour chacun d'entre nous, dans laquelle tu nous appelles à entrer. Seigneur, qu'on n'ait pas peur des sacrifices auxquels tu nous appelles, mais qu'on puisse tourner nos yeux vers toi, réaliser la valeur inestimable de ton salut et te donner pleinement notre vie. Ce matin, Jésus, s'il y a dans ce lieu des gens qui ne se sont pas encore engagés envers toi comme Sauveur et Seigneur, on te prie vraiment, Seigneur, pour que tu puisses leur révéler ta valeur inestimable. Afin qu'il puisse être tout pour toi, Jésus. Alors qu'on prend encore quelques minutes ensemble, on veut juste prier en silence individuellement pour que tu puisses parler à nos cœurs. Et tendre l'oreille, écouter ces pensées-là que tu vas mettre dans nos esprits pour nous montrer ce que tu veux bien nous dire ce matin. Jésus, tu mérites mes petits sacrifices, mes grands sacrifices. Tu mérites mon cœur tout entier. Tu mérites mon petit inconfort. Jésus, merci pour ce que tu as accompli pour moi à la croix. Merci parce que tu as été tellement généreux de ton temps, de ta personne. Tu es venu avec douceur, tu ne t'es pas imposé, tu n'étais pas un conquérant militaire ou un spectaculaire, mais humblement tu es venu vers nous. Seigneur, humblement ce matin, on veut répondre à ton invitation d'être des apprenants de toi. Et comme cette femme-là, d'entrer dans ton plan, indépendamment de ce que d'autres pourront penser, indépendamment des jugements, Seigneur, Il n'y a que ton jugement qui compte, papa. Alors oui, Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Tout pour toi, Jésus. Sois béni, Seigneur.